Je vous invite à ouvrir la parole de Dieu dans le livre du prophète Ésaïe et je lirai le chapitre 58. Ésaïe chapitre 58. Crie à pleine voix sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette et révèle à mon peuple sa révolte, à la famille de Jacob ses péchés. C'est moi que jour après jour ils consultent, ils veulent connaître mes voies. Comme une nation qui aurait pratiqué la justice et n'aurait pas abandonné le droit institué par son Dieu, ils me réclament des jugements conformes à la justice. Ils désirent se rapprocher de Dieu. À quoi nous sert-il de jeûner, si tu ne le vois pas ? De nous humilier, si tu n'y fais pas attention ? C'est que le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Vous ne jeûnez pas, comme vous le faites aujourd'hui, de manière à faire entendre votre voix là-haut. Est-ce un jeûne de ce genre que je préconise, un jour où l'homme s'humilie ? S'agit-il de courber la tête comme un roseau ? Faut-il se coucher sur le sac et la cendre ? Est-ce cela que tu appelles un jeûne, un jour agréable à l'Éternel ? Voici le genre de jeûne que je préconise. Détacher les chaînes dues à la méchanceté. Dénouer les liens de l'esclavage. Renvoyer libres ceux qu'on maltraite. Mettez fin aux contraintes de toutes sortes. Partage ton pain avec celui qui a faim et fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Quand tu vois un homme nu, couvre-le. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Alors, ta lumière jaillira comme l'aurore et ta restauration progressera rapidement. Ta justice marchera devant toi et la gloire de l'Éternel sera ton arrière-garde. Alors tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira « Me voici ». Oui, si tu éloignes du milieu de toi la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, si tu partages tes propres ressources avec celui qui a faim, si tu réponds aux besoins de l'opprimé, ta lumière surgira au milieu des ténèbres et ton obscurité sera pareille à la clarté de midi. L'Éternel sera constamment ton guide. Il répondra à tes besoins dans les endroits arides et il redonnera des forces à tes membres. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat pour ne pas faire ce qui te plaît durant mon saint jour, si tu considères le sabbat comme un plaisir, le jour saint de l'Éternel, comme digne d'être honoré. Et si tu l'honores en ne suivant pas tes voies habituelles, en ne cherchant pas à accomplir tes propres désirs et en ne parlant pas dans le vide, alors tu trouveras ton plaisir dans l'Éternel. Alors je te ferai monter sur les hauteurs du pays et je te ferai jouir de l'héritage de ton ancêtre Jacob. Oui, c'est l'Éternel qui l'affirme. Notre texte commence par un problème qu'on pourrait présenter ainsi. Dieu n'est pas content de son peuple, le peuple d'Israël n'est pas content de son Dieu. Le peuple d'Israël se plaint parce qu'il pratique le jeûne et que ça ne marche pas. À quoi nous sert-il de jeûner si tu ne le vois pas ? De nous humilier si tu n'y fais pas attention. Verset 3. Le peuple attend un certain résultat de son jeûne, une certaine bénédiction, mais rien ne vient. La réponse de Dieu revient à demander au peuple « Qu'est-ce que tu appelles jeûner ?» Est-ce que tu crois que le jeûne consiste simplement à s'abstenir de nourriture? Le jeûne sert à exprimer que l'on revient à Dieu. Pour marquer le sérieux de sa démarche, on l'exprime par une pratique qui nous coûte quelque chose. On saute un ou plusieurs repas. Mais le jeûne n'a pas de valeur à lui tout seul. Il n'en a que s'il exprime quelque chose d'authentique. Si les actes que vous accomplissez pendant votre jeûne montrent que vous ne vous intéressez pas vraiment aux priorités de Dieu, votre jeûne est creux. Si le peuple se plaint, Dieu de son côté appelle son prophète à dénoncer les péchés de son peuple et à le faire en criant à tue-tête. Crie à pleine voix, sans te retenir. Fais retentir ta voix comme une trompette. Les deux commandements les plus importants et qui résument tous les autres sont les commandements de l'amour de Dieu et de l'amour du prochain. Or, qu'est-ce que Dieu reproche aux jeunes de son peuple? C'est qu'ils n'expriment rien d'authentique parce qu'ils ne s'accompagnent pas de l'amour. Le jour où vous jeûnez, vous accomplissez vos propres désirs et traitez durement tous vos ouvriers. Votre jeûne débouche sur des procès et des disputes, sur de méchants coups de poing. Le jour du jeûne, les Israélites se préoccupent d'eux-mêmes, ils accomplissent leurs propres désirs, et ils vivent des relations détestables avec les autres, en particulier avec leurs subordonnés, ceux qui se trouvent dans une position de vulnérabilité par rapport à eux. Centrés sur eux-mêmes et ne s'occupant des autres que pour leur faire du mal. Et qu'en est-il de la relation avec Dieu? Dieu demande à son peuple de respecter le sabbat, mais il ne veut pas que son peuple se contente de cesser ses activités professionnelles le jour du sabbat. Non, il veut que son peuple considère le sabbat comme un plaisir. Dans le livre du prophète Amos, Dieu décrit ce que peut être une manière purement formelle de respecter le jour du sabbat. Et vous verrez que, comme par hasard, les pauvres en étaient les premières victimes. Amos, chapitre 8, versets 4 à 6, « Écoutez ceci, vous qui dévorez le peuple et qui ruinez les malheureux du pays. Vous dites, quand le début du mois sera-t-il passé ? » Le début du mois, c'était une fête, la nouvelle lune. « Quand le début du mois sera-t-il passé afin que nous puissions vendre le blé ? » Quand finira le sabbat, afin que nous puissions ouvrir les greniers? Nous diminuerons la mesure, nous augmenterons le prix, nous falsifierons les balances pour tromper, puis nous achèterons les faibles pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales, et nous vendrons le déchet du blé. Donc Dieu n'est pas content de son peuple, et le peuple n'est pas content de son Dieu. Nous sommes face à un peuple qui pratique une religion creuse, qui opprime son prochain, qui ne s'occupe que de lui-même et de la vie duquel Dieu semble s'être retiré. Je pense qu'on peut dire, sans exagérer, que nous avons là devant nous le tableau de ce que c'est qu'une vie ratée. Centrée sur soi-même, opprimant son prochain. Un peuple de la vie duquel Dieu semble s'être retiré. Voilà ce que c'est qu'une vie ratée. Mais Dieu ne se contente pas de dénoncer les péchés de son peuple. Il ne lui dit pas « ta vie est ratée, je vais chercher un autre peuple ». Il lui montre plutôt un autre chemin, un chemin qui donnera du sens à son jeûne. Et deux éléments ressortent tout particulièrement de notre texte, la justice et la solidarité avec le pauvre. La justice d'abord. Agir selon la justice, c'est faire ce qui est droit, ce qui est conforme à la règle que Dieu a donnée aux humains. Cela implique en particulier de respecter la dignité de chaque être humain, celui qui est fait de la même chair que toi, dit le verset 7. et qui est aussi fait en image de Dieu. Cela implique de respecter ses droits, même si lui est trop faible pour les faire respecter. Cela implique de ne pas abuser de sa force. Dans notre texte, l'injustice s'exprime par des paroles et par des actes, la contrainte, les gestes menaçants et les paroles mauvaises, la violence. Vous pouvez voir le verset 9 et le verset 4. Cela commence dans les relations proches, avec les ouvriers, les subordonnés. Cela continue dans des pratiques d'oppression au sein de la société. La justice. Et puis, la solidarité avec le pauvre. Il ne suffit pas de s'abstenir de faire le mal, il faut aussi faire le bien. Un mot peut-être résume tout. Ce mot, c'est partage. Ne cherche pas à éviter celui qui est fait de la même chair que toi. Tous les humains sont faits de la même chair. Ils ont tous, nous avons tous, les mêmes besoins de base que la Bible résume souvent en deux mots, nourriture et vêtements. Et c'est précisément à ce niveau-là que Dieu appelle son peuple à agir. Partage ton pain avec celui qui a faim. Quand tu vois un homme nu, couvre-le, et dans le prolongement du besoin du vêtement, fais entrer chez toi les pauvres sans foyer. Dieu reproche à son peuple d'être centré sur ses propres désirs et ses propres affaires. Il le dit au verset 3 et au verset 13. Au lieu de chercher son plaisir dans le sabbat et de s'ouvrir aux besoins de son prochain. Le pauvre, c'est celui qui n'est pas capable de rentrer dans les relations de donnant-donnant, qui caractérise beaucoup de relations sociales et qui, en fait, caractérise même la relation que le peuple essaie d'entretenir avec son Dieu. « Je jeûne et en échange, tu me bénis, quoi que je puisse faire par ailleurs. » Se montrer solidaire avec le pauvre et chercher la justice dans la vie quotidienne, c'est certainement l'une des attitudes les plus cohérentes à adopter quand on jeûne. Le texte se termine par une mention du sabbat. Ce n'est pas seulement la relation avec les autres que Dieu veut voir restaurée, mais également la relation avec lui. Il s'agit là encore d'abandonner l'attitude égocentrique qui consiste à se concentrer sur ses propres désirs et à considérer ce qui plaît à Dieu comme étant aussi un plaisir pour nous. Se tourner vers Dieu, se réjouir en lui et s'ouvrir à son prochain. Voilà l'attitude demandée dans notre texte. Et voilà la seule attitude qui donne un sens au jeûne ou à toute autre pratique rituelle. Et à celui qui adopte cette attitude, Dieu fait des promesses magnifiques. Il sera présent, tout près de lui. Il répondra à ses prières. Il le bénira et il en fera une source de bénédiction pour les autres. Bref, il fera de sa vie une vie digne d'être vécue. Si au début, nous avions le tableau d'une vie ratée, nous avons ensuite le tableau de ce que c'est qu'une vie vraiment réussie et qui est vraiment digne d'être vécue. Qu'est-ce que vous voudriez qu'on puisse dire de votre vie ? Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on puisse dire de vous maintenant ? Ou qu'est-ce que vous aimeriez pouvoir laisser comme souvenir une fois que vous serez parti ? Pour ma part, je peux difficilement imaginer quelque chose de plus beau que les versets de notre texte. Tu seras pareil à un jardin bien arrosé, à une source dont l'eau n'arrête jamais de couler. Grâce à toi, on reconstruira sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondations vieilles de plusieurs générations. On t'appellera réparateur de brèches, restaurateur de sentiers fréquentés. Être quelqu'un sur qui les autres peuvent compter et qui leur apporte la vie, comme une source d'eau apporte le réconfort et la vie à quelqu'un qui a très soif. Être quelqu'un qui répare et qui construit sur de bonnes bases, voilà le tableau d'une vie qui en vaut vraiment la peine. Alors comprenons-nous bien, le but de ce texte n'est pas d'encourager une forme de salut par les œuvres. Le texte ne nous dit pas « si tu cherches la justice et si tu te montres solidaire avec le pauvre, tu gagneras le droit à la bénédiction et à la protection divine ». Ce n'est pas ça que dit notre texte. Mais ce que notre texte nous dit, c'est que Dieu n'est pas indifférent, ni à notre vie, ni à la situation des pauvres, ni à ce qui se passe dans notre monde. Ce qui se passe dans notre monde, ce qui se passe dans notre vie, compte pour lui. Dieu dit à son peuple, si tu renonces à la logique égocentrique et si tu t'ouvres à ton prochain, tu verras que je suis là, sur ce chemin-là, avec toi. Si tu fais de moi ta priorité, tu verras que je me laisse facilement trouver. Nous ne verrons la plénitude de l'accomplissement des promesses de ce texte que lors du retour du Seigneur Jésus. Jésus a dit que celui qui se préoccupait des pauvres était heureux parce qu'il serait récompensé lors de la résurrection des justes. Mais dès maintenant, celui qui pratique la justice, qui aime la miséricorde et qui marche humblement avec son Dieu, dès maintenant, celui-là vit quelque chose de la réalité de la communion avec Dieu. Dès maintenant, il vit quelque chose de la réalité de sa présence et de sa bénédiction. Dès aujourd'hui, la vie de celui qui fait le bien est une vie abondante et digne d'être vécue. L'application de ce texte paraît assez claire et je vais donc me contenter de quelques indications pour aller plus loin avant de conclure. À qui s'adresse notre texte ? Il s'adresse d'abord au peuple d'Israël au temps de l'Ancienne Alliance. Et ce peuple présentait une double caractéristique. D'une part, il s'agissait du peuple de Dieu. Et d'autre part, il s'agissait d'un peuple au sens ethnique et politique du terme. D'où une double application pour nous aujourd'hui, qui vivons dans un contexte différent. En premier lieu, une application pour nos relations dans le peuple de Dieu qu'est l'Église. Et puis, en second lieu, une application pour nos relations humaines, familiales et sociales. Les relations fraternelles d'abord. Les relations entre chrétiens devrait être un modèle de justice, de solidarité et d'amour. Le Nouveau Testament insiste sur la communion fraternelle, et cette communion désignait notamment le partage matériel des ressources. D'autre part, les injustices dans les relations entre chrétiens sont dénoncées avec une grande force, en particulier lorsque Paul reprend les chrétiens de l'église de Corinthe qui se traînaient les uns les autres devant les tribunaux. La justice et la solidarité commencent ici, dans notre église locale. Mais elles doivent aussi se vivre avec d'autres églises, auprès comme au loin. C'est ainsi que les chrétiens de l'époque du Nouveau Testament ont su faire une collecte pour les chrétiens pauvres de Jérusalem. Il y a aussi une place pour une application d'Ésaïe 58 aux relations humaines, familiales et sociales. Les chrétiens ne vivent pas en vase clos, fermés au monde. Si nous devons pratiquer le bien, en particulier envers nos proches, dans la foi, les chrétiens, nous devons aussi le pratiquer envers tous. Cela veut dire que les chrétiens devraient être connus comme des personnes qui s'inquiètent de la justice dans la société. Et ça, ça commence à la maison et au travail. Ça commence avec nos gestes et nos paroles dans le quotidien. Alors, je ne connais pas très bien votre église, je peux supposer quand même qu'il n'y a pas beaucoup de personnes parmi vous qui sont des patrons, qui ont des ouvriers qu'ils pourraient plus ou moins maltraités comme les personnes dont parle le texte d'Ésaïe. Mais ce que je sais, c'est que tous, à un moment ou à un autre dans notre vie, nous nous retrouvons en situation de pouvoir, avec des gens qui dépendent plus ou moins de nous. Qu'est-ce que nous faisons de cette situation de pouvoir ? Je m'inquiète en particulier des paroles dévalorisantes, les paroles mauvaises ou les discours malfaisants du verset 9, au sein de la famille, à l'égard du conjoint ou à l'égard des enfants, peut-être à l'égard des parents. Je m'inquiète de la question de la maltraitance des femmes. qui se produit parfois aussi au sein de familles chrétiennes. La recherche de la justice, ça commence à la maison et au travail. Ça peut continuer par l'intérêt pour des questions sociales plus vastes. Je crains que si nous nous intéressions à l'impact de notre société et de la culture du consumérisme sur les pays pauvres, ou sur la manière de se conduire de notre pays à l'égard de ces mêmes pays, nous ne trouvions des sujets de rougir. Pour ce qui concerne la solidarité à l'égard des pauvres, notre contexte est sans doute un peu différent de celui d'Israël à l'époque de l'Ancien Testament, mais nous avons toujours les pauvres avec nous. Leurs besoins de base sont toujours les mêmes. Et nous avons, au moins pour la plupart d'entre nous, les moyens de faire quelque chose. Cela peut être pour les pauvres auprès en France ou pour ceux qui vivent plus loin dans les pays dits en développement. Cela passe par le don d'argent, directement ou via une association, par le don de matériel ou de nourriture, par le don de temps ou le bénévolat, par l'hospitalité. Partage ton pain avec celui qui a faim. Quelle est la raison suprême pour faire cela ? Elle pourra peut-être nous surprendre, mais c'est la grâce de Dieu. En partageant notre pain avec celui qui a faim, nous prenons au sérieux la grâce de Dieu. La grâce que Dieu nous a faite de nous pardonner gratuitement nos péchés à cause du sacrifice de Jésus, cette grâce, elle est exprimée un petit peu avant notre texte, au chapitre 55. Par l'image d'un repas gratuit que Dieu nous donne. Et maintenant, Ésaïe nous appelle à nous attacher à la grâce de Dieu, ce qui nous conduira à nous humilier devant lui, à nous centrer sur lui et à nous ouvrir à notre prochain, et en particulier aux pauvres. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau. Même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas ? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas ? Écoutez-moi vraiment, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc, et vous vivrez. Amen.